Nous voilà au 133 rue de Turenne, nous voici 12 ans, Jacques Génin a ouvert la chocolaterie Jacques Génin au 133 rue de Turenne. C'était en 2008, vous aviez 49 ans, Jacques.
Et c'était avant, en 2008.
Avant quand même, si on regarde vite fait votre vie, vous avez une enfance à Saint-Dié dans les Vosges où vous alliez bader les vitrines pâtissières. Vous commencez à 12-13 ans aux abattoirs, vous découvrez ensuite la cuisine, vous êtes chef de cuisine à 28 ans, vous aurez deux restaurants, le Basique et l'Auberge du Beauregard. Et puis en 92, de 92 à 96, vous voilà chef pâtissier de la Maison du Chocolat, où vous êtes chef pâtissier donc, et là pendant 4 ans vous allez créer la tarte au chocolat, l'éclair au chocolat et bien d'autres choses. En 96, moi, je vous découvre dans la rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement. Aujourd'hui, on appellerait ça un black labo. C'est-à-dire que vous fabriquiez, mais caché. Et vos clients, c'était, c'est simple, hein. Ce jour-là, j'ai croisé Camp de Bord, Piège, Fréchon, Marchal. On peut dire aussi que le Ritz et bien d'autres palaces ont été de vos clients pour des caramels à tomber par terre. Nous voilà en 2008, vous ouvrez la chocolaterie Jacques Génin, 400 mètres carrés sur deux niveaux, nous y sommes, là, les clients regardent, parce que vous proposez une pâtisserie, mais que sur commande.
Que sur commande, exactement, que sur commande.
Ça vous ennuie de faire de la pâtisserie ou...
Oh non, 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 au contraire, ça ne m'ennuie pas. Si un univers dans lequel je me régale encore, c'est la pâtisserie. Mais je considère que la pâtisserie est un produit frais. Et... la réaliser et la congeler pour la sortir au fur et à mesure parce qu'on en a besoin, je trouve ça un peu dommage. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui conserverait 3 semaines un homard au frigo? Non. Tu le manges frais? Eh bien, c'est pareil pour la pâtisserie.
Et c'est un peu pareil pour vos bonbons de chocolat, non?
C'est la même chose pour les bonbons de chocolat, pour les pâtes de fruits, pour les caramels. En fait, je suis cuisinier et je reste cuisinier. Je travaille comme en cuisine, ah oui, au jour le jour.
Parce que vous n'avez pas de CAP de pâtissier, vous.
Je n'ai pas de CAP de pâtissier.
Ni de chocolatier.
Ni de chocolatier.
Ni même de confiseur.
Ni même de confiseur.
Alors, autodidacte jusqu'au bout.
Autodidacte jusqu'au bout, en cuisine, dans tout ce que j'ai fait, autodidacte. Mais en même temps, être autodidacte, c'est plaisant et c'est pas plaisant. Ça a ses qualités, ça a ses vertus, ça a ses défauts aussi. Pour apprendre, tu apprends eh bien, avec tout ce qui va avec. Avec la possibilité de rater plus souvent, de pas comprendre rapidement. D'abord parce que tu n'as pas de base. Mais en même temps, le fait de pas avoir de base, tu as les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts. Et tu te laisses aller. Et tu te laisses aller surtout à tes tripes. Il n'y a pas eu quelqu'un pour te formater, pour te dire « Non, ça, tu peux pas le faire. »
Ah oui, et puis on l'a bien vu, parce que quand vous ouvrez la chocolaterie Jacques Génin, vous surprenez tout le monde professionnel, parce que vos bonbons de chocolat ne font que 5 grammes.
Ne font que 5 grammes.
Parce que vous considérez que vous préférez en manger 2 ou 3 qu'un seul gros, c'est ça?
Ça peut être ça aussi, mais ça peut être le palais. Il n'est pas fait pour être engorgé. Il est fait pour avoir de la subtilité. Il est fait... pour avoir aussi de la naïveté et de la découverte. Or, si tu le gaves, comme certains bonbons de chocolat, qui font 10, 12, 17 grammes, en fait, t'es dans la mâche, t'es dans le gras, t'as pas d'équilibre, t'as pas de saveur. Et c'est un peu dommage. On doit rester dans la subtilité, dans la gourmandise. Et on doit pas rester, effectivement, dans la beuglerie, quoi.
Ouais, ouais.
C'est dommage.
C'est la principale qualité de vos chocolats, d'être fin et...
Non.
Et en même temps puissant.
Ils ont aussi une autre qualité. La qualité, c'est aussi la fraîcheur du bonbon. D'abord parce que c'est un chocolat qui n'a jamais connu la congélation, il n'a jamais connu le frigo. La ganache est fabriquée un lundi, elle sera détaillée le mardi, elle sera enrobée le jeudi, elle sera en vente le vendredi. En vente le vendredi. Les filles qui travaillent ici au magasin doivent effectivement dire aux clients, vous avez 10 jours pour les consommer. Bien sûr qu'ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent aller 15 jours, ils peuvent aller 20 jours. Mais ils vont perdre une partie des subtilités du produit. Il ne faut pas oublier que toutes les ganaches ne sont que des infusions. Et les infusions, ne sont pas des parfums, des saveurs qui sont collés au produit. Ils sont collés au produit à travers la matière grasse, mais ils sont évanescents. Vous n'avez pas d'huile essentielle pour les scotcher. Donc ça s'en va très vite. Et puis le chocolat, il faut pas oublier que c'est une graisse. Et les graisses, ça vieillit mal. Un beurre, on le mange rapidement, sinon il rancit. C'est la même chose pour un chocolat.
Et vos ganaches, c'est plutôt des infusions de plantes et d'épices, c'est ça?
Ce sont des infusions de plantes, de plantes et, des, et d'épices. Mais pourquoi utiliser des huiles essentielles quand on a cette possibilité d'être dans un pays où on peut avoir tous les plus beaux produits du monde? Ah. Et en frais, en plus. Alors maintenant, ce qu'il faut respecter aussi, eh bien, c'est les saisons à travers ça. Eh bien, à un moment, il y a certains, comme le, je vais prendre comme le romarin, comme le basilic, comme le thym, comme le laurier, eh bien, ils ont aussi leur saison. Et respectons-les. Et il n'y aura jamais de thym chez moi en hiver. Parce que qu'est-ce qui est bon dans le thym? C'est la fleur de thym. C'est pas le bois. Le bois, lui, va ramener une astringence, il va ramener de l'amertume et un parfum beaucoup trop fort, puisque le parfum a vieilli, mais en même temps, il s'est transformé en huile essentielle. Donc, pour moi, il ne faut pas l'utiliser.
Ouais. Et au niveau de votre chocolat préféré, de votre gamme, alors on estime, mais bon, là, il y a eu la pandémie, donc on estimait qu'il y avait entre 24 références de bonbons au chocolat jusqu'à 50. À raison de deux tiers de chocolat noir, un tiers de chocolat lait. Pourtant, c'est le lait que vous préférez.
Et pourtant, c'est le lait que je préfère.
Mais donc, vous êtes commerçant, là?
Non, je ne suis pas que commerçant. Ah. Le chocolat, le mot chocolat ne renferme pas que la notion du noir. Elle renferme aussi la notion du plaisir, du sensuel, des saveurs, et puis de l'attendrissement que va nous donner le chocolat. Moi, quand j'entends... Oui, le chocolat à 90%, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, je suis désolé. Un chocolat à 90% ou même à 100% qui n'est plus du chocolat, si tu dois te prendre chaque fois que tu en manges un pain dans la gueule, quel est l'intérêt? Il faut retrouver un apaisement dans un produit. Ce que tu recherches dans le chocolat, dans la confiserie, dans la pâtisserie, dans la cuisine, ce que tu cherches, c'est un havre de paix. C'est une élégance, c'est un goût, c'est une subtilité. C'est pas quelque chose qui va te matraquer le palais. Mais comme dans le thé. Moi, un thé trop infusé, je le bois pas. Ça m'ennuie. Et surtout, je suis une personne qui, de toutes les manières, je suis le genre d'individu qui, chaque jour, se fait des infusions à base de toutes les épices qui existent. Et chaque jour, je m'en fais une différente.
Alors, ce qui veut quand même dire que votre praliné préféré, c'est de la rondeur, de la générosité et de la puissance. C'est trois arguments. Et que votre chocolat préféré, puisqu'on me l'a soufflé à l'oreille, c'est lait gingembre, sensuel et provocateur à la fois, un peu comme vous, non?
Un peu comme moi. Mais on peut rajouter dans ces cas-là le tonka. Le tonka, pour moi, c'est un chocolat juste extraordinaire. Mais pourquoi c'est un chocolat extraordinaire? Parce que sur ce chocolat-là, pour moi, vous avez un musc, vous avez des muqueuses et... Vous avez, au-delà de la puissance de l'Afrique, vous avez dans ce chocolat une sexualité qui est juste incroyable. Et encore que je n'ai pas complètement découvert, mais vous êtes en même temps sur une amande, vous êtes sur le lait d'orgeat, vous êtes sur la vanille, vous êtes sur le café. Mais il a une multitude de goûts qui sont juste incroyables. Et chaque fois que j'en goûte un, je ne goûte pas la même chose.
Ouais, mais alors expliquez-moi la sensualité, la rondeur, la générosité d'un chocolat au capre.
Ah, mais justement!
C'est ce que vous en avez fait, un chocolat au capre.
J'en ai fait un. Là, j'ai cherché autre chose qu'une rondeur. J'ai cherché autre chose qu'une sensualité. Ce qui est important quand j'ai goûté ces capres, qui venaient de Pantelleria, qui étaient faits donc de Gabriolini, ce que j'ai cherché, c'est que, en même temps, ces capres-là, il les garde dans un sel de Guérande qu'il a choisi lui-même, qu'il a été sur place pour le choisir. Il les garde pas en saumure, il les garde en sel de Guérande. Et il les garde en sel de Guérande parce que c'est des toutes petites capres. En fait, il attend pas la saison pleine des capres. dès qu'effectivement il a des petites bulles, il les cueille tout de suite. Parce que souvent les câpres, en fait, sont piquées par les mouches. Et lui, tout ça, il s'en sert pas. Il se sert que de ces toutes petites câpres qui deviennent à peine après la fleur de un peu d'éclore, et elles gardent une fraîcheur. Elles gardent une peau avec un petit craquant, un craquant végétal, tu sais, que tu ressens encore, et mélangé avec la noisette et une couverture Madagascar, quand même très très acidulée par le fruit, par le goût fruit rouge. Eh bien, on a une subtilité juste incroyable, quoi. Et ce que j'ai cherché là, c'est en même temps une sorte de provocation.
Ouais, ça se faisait pas.
Non, ça ne se faisait pas. C'est qu'après que sont nés effectivement tous les chocolats, au cèpe, tous les chocolats, à tout ce que tu veux. Le premier qui avait un peu commencé à renverser les codes dans ce monde du chocolat, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Jean-Paul. Avec les chocolats, Jean-Paul Évin, avec les chocolats, au camembert. Voilà, il avait cherché une autre matière, une matière grasse. Il s'est dit, mais attends, il y a du produit, il y a du parfum. Il y a... Ouais. C'était pas mal. Après, on aimait ouais. pas. Mais je trouve que l'exercice de style était beau. Était beau.
Le style, vous, c'est plutôt pas de décor, épuré, parce que vous dites, on n'est pas des divas. Notre mission est de juste mettre en valeur les matières premières qui exhalent nos productions. Donc, pas de décor sur vos pâtisseries, par exemple, ni sur vos bonbons.
Aucun décor sur les pâtisseries, aucun décor sur les bonbons, aucun décor sur tout ce que je peux faire. Mais pourquoi ?
C'est pas une raison d'économie ?
Oh, pas du tout. Bon. Pas du tout. Et ça ne sera jamais une raison d'économie. La vraie raison, c'est que souvent, quand vous voyez un beau dessert arriver, et ça peut m'arriver en restaurant, ça peut nous arriver partout, vous avez un beau décor. Et quand vous goûtez le décor, il est juste pas bon. Mais pourquoi ? Parce que ce décor, on est obligé quand même de le préparer à l'avance. Et de le préparer à l'avance, il n'est pas toujours conservé dans des boîtes hermétiques. Il est sur plaque parce que au service, il faut aller vite. Parce que... Et tous ces décors-là, quand vous les goûtez, c'est un peu poussiéreux. C'est joli. C'est joli. Et puis, du décor, j'en ai fait pendant des années. Et je suis arrivé à un moment à me dire, mais qu'est-ce que tu travailles ? Ton métier, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est si ce n'est que de respecter le produit de celui que tu as été voir, tu te fais un produit hors du commun. Est-ce que tu as besoin, effectivement, de rajouter je ne sais quelle autorité sur ce dessert, sur ce produit, puisque de toute manière, il se suffit à lui-même. À moi d'être assez intelligent pour lui rendre son âme et surtout ne pas le travestir.
Et ce serait lequel le produit préféré que vous préférez de chez préféré ?
Aujourd'hui ? À travers les produits que je réalise ou...
Oui.
Sur une multitude de produits.
Alors, on n'a qu'à dire, par exemple, sur le registre de la pâtisserie, est-ce qu'il y a un gâteau que vraiment on peut vous l'acheter les yeux fermés parce que vous adorez ?
Oui, voilà. J'aurais tendance à dire que dans quel état d'esprit je vais me lever tous les matins ?
C'est votre anniversaire.
C'est mon anniversaire. Bon. Est-ce que je me lève en voyant les roses sur mon balcon ou pas ?
Ah, oui, bien sûr.
Si c'est un temps comme hier...
Parce que vous êtes né au mois
de mai.
Donc il y a des roses.
Oui. Si c'est un temps comme par exemple hier, où il faisait triste et autre, ben hier, il n'y a aucun gâteau qui me refait plaisir.
Allons bon.
Non.
Même pas un Paris-Brest ?
Même pas un Paris-Brest.
Un baba au rhum ?
Non plus. Non. Mais pourquoi ? Parce que j'avais pas cette âme-là. Alors, à côté de ça, en ce moment, on est en pleine période de moulage, je me suis régalé. Quand elles ont fait du moulage lait, chaque moule, tu as toujours du chocolat qui retombe et qui tombe sur les feuilles. Et là, c'est de prendre ces petits morceaux-là, de les manger comme ça. Tu vois, là, hier, ça me faisait plaisir.
Ouais, nous parlons de moulage parce que l'entretien a lieu juste avant Pâques. Et donc, dans les laboratoires, donc, je répète, 200 mètres carrés par niveau, il y a deux niveaux. Il y a un étage, c'est le labo, qui n'a pas changé, toujours aussi beau, avec toujours ses belles réalisations. Et donc, on est un peu beaucoup dans Pâques. Mais quelle est la technique qui vous épate ?
Alors, la technique pâtissière qui m'épate, il n'y en a pas qu'une. C'est que je trouve que les techniques on peut toujours les remettre en cause. Les techniques de cuisson, les techniques de création des pâtes. Parce que ce qu'on va trouver aujourd'hui sur une pâte, en faisant par exemple une pâte feuilletée, moi qui adore la pâte feuilletée, parce que j'adore faire la galette, alors, voilà à la limite un dessert que je peux manger toute l'année. C'est la galette.
Ah.
Je suis un fou de la galette.
Mais une galette normale ou la galette où vous, avec votre pinceau, vous mettez un peu de confit de marron dessus?
Cette galette-là. Mais pourquoi? Parce que tu peux utiliser un sirop traditionnel, mais alors, avec un sirop de confisage de marron, tu donnes un craquant en plus à ta pâte, mais qui est juste extraordinaire. Ce craquant ne te colle pas aux dents, il est là, il va se joindre complètement à ta pâte, et en même temps, d'un coup, tu vas avoir cette galette qui est bien chargée en crème d'amande, tu sais, et qui va rentrer à l'intérieur, le mélange de cet ensemble avec les rhums que j'utilise, mais c'est juste un bonheur. Et ça, j'adore faire ça. Et tu vois, cette technique, par exemple, sur la galette, j'ai dû la changer maintenant, ça fait 12 ans que j'en fais, 12 fois. Et comme quoi, une recette n'est jamais acquise, puisque cette année, tu vois, elle a été encore élue meilleure galette de Paris. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en finissant la galette, donc mi-février, quand j'ai eu fini de faire les dernières, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé quelque chose de nouveau pour feuilletage.
Ah. Et ça, tu on vois, est content quand on est autodidacte. Hein.
Mais c'est juste fabuleux. Parce que la compréhension d'un produit, la compréhension d'une technique, hein, eh bien, elle n'est jamais acquise. Mais une bonne pâtisserie, tu deviens bon pâtissier à partir du moment où tu sais cuire.
Ah.
Tu deviens bon rôtisseur quand tu sais cuire.
Ah. Donc d'abord le tour.
D'abord le tour. Mais le tour, à la limite, je dirais, si je compare ça à un rôtisseur, ton tour, ça va être la préparation pour la broche. Eh bien là, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui va sublimer ton produit? Ça va être la manière dont tu vas le rôtir.
Alors, c'est vrai qu'on vous a passé la journée ici, l'après-midi, dans votre labo. Et c'est vrai qu'il y avait une tarte aux fraises, vous l'avez sortie peut-être 8 fois du four, en disant, ah, il lui faut encore 1 minute, il lui faut encore 2 minutes, pour qu'elle ait cette couleur uniforme, caramel un peu, caramel blond.
C'est ça.
Donc en fait, c'est plus le goût, c'est l'œil.
Là, c'est... À partir de là, c'est plus le goût. Le goût se transforme. C'est ton œil qui prend le goût. Et en même temps, au moment où tu sors, tu as quand même toutes ces évanescences, tu sais, en fait, ces évanescences, toute cette chaleur qui ressort, ce n'est jamais que l'humidité de ta cuisson. Et l'humidité de ta cuisson, elle dégage quelque chose. Alain Chapelle disait quelque chose de très beau, que j'ai eu l'occasion de lire aussi dans ses livres, hein, disait, mais écoute-le chanter, ton beurre. Écoute-le danser.
Est-ce qu'il y a des fautes techniques qui, pour vous, sont impardonnables? Quelqu'un qui ne sait pas pocher, par exemple, est-ce que...
Oui.
Ça ne va pas.
Là, ça ne va pas. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas pocher, c'est que tu ne t'es pas donné les moyens aussi de vouloir apprendre. Parce que quand tu prends une poche à douille et que tu vas pour pocher de la pâte à choux, si tu as quelques années de métier et que tu ne sais pas faire, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Parce que pour le peu, là, c'est que de la technicité. Et la technicité, tu as certains gestes, tu les as, tu les as en toi. Ce qu'il y a, chaque fois que tu travailles, il faut le réfléchir, ton geste aussi. Et c'est souvent ce que, un peu, je reproche aux jeunes. Ne faites pas quelque chose parce qu'il faut le faire. Faites-le avec envie, faites-vous plaisir. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. Des fois, je les vois, ça y est, monsieur, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Non. Mais j'ai fait comme d'habitude. Mais je ne supporte pas ce mot comme d'habitude. Avant, je leur disais, bon, maintenant, je dis plus cette phrase parce qu'on m'a repris quelques fois, mais c'est comme avant, avec maman, tous les vendredis soirs. Et alors, effectivement, je l'ai choqué quand je disais ça. Mais je voulais une prise de conscience. Arrête de me dire comme d'habitude. Quand tu mets au four, Est-ce que demain, tu auras la même humidité? Est-ce que tu auras la même chaleur que va dégager ton four? Est-ce que ton four de droite sort la même chaleur que le four de gauche? Regardez, les temps que je vous donne sont des temps d'appréciation, sont des temps pour vous guider. C'est un guide. On marque les recettes, pas parce qu'on ne sait pas les faire, on marque les recettes parce que on ne pourrait pas se souvenir de tous les poids. C'est juste impossible. Donc, en fait, c'est un guide. Servez-vous de ce qu'on vous donne comme guide. Et après, faites marcher votre bide. Ça, c'est comme ça que vous deviendrez bon.
Donc, c'est l'investissement qui est la meilleure qualité professionnelle pour vous. L'investissement et l'amour de son métier.
Mais dans la vie en général, quand tu es en couple, si tu n'as pas d'investissement, ça se passe comment? C'est pareil dans ton métier. Il n'y a pas de différence. Tu sais, on veut toujours faire la part des choses et surtout bien tout diviser parce que ça arrange bien, vive la chrétienté. On veut toujours dire que le boulot, c'est une part. La vie privée, c'en est une. Mais c'est deux investissements que tu dois donner. Sinon, tu les rates. Tu dois donner du cœur. Tu dois le faire avec plaisir. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine, reste seul. Et encore, c'est même pas sûr que tu sois heureux.
Est-ce que vous avez le rêve à la soixantaine de monter une école de... Parce que je sais que perpétuer l'entreprise, ça le fait. Jade, votre fille de 28 ans, est rentrée dans l'entreprise il y a 2 ans. Elle a rejoint cette équipe d'une vingtaine de personnes et cette petite princesse pour qui vous faisiez pour les anniversaires des rideaux en chocolat ou des rideaux en sucre, oui, continue à vivre ce rêve éveillé d'être avec son papa finalement encore et toujours.
Mais c'est ça qui est magique. C'est magique parce que moi, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais papa, tu vas faire quoi de tout ça? Je lui ai dit, écoute, moi, je vais vendre. Elle m'a dit, mais papa, non, c'est à moi. C'est mon histoire, c'est ma vie. Et puis surtout, mes enfants n'auront pas ça. Ça, c'est impossible.
Alors, il faut bien préciser que c'est pas une réflexion de petite fille gâtée.
Ah non.
Quand votre fille vous a dit ça, elle était avocate, gros cabinet d'affaires.
Gros cabinet d'affaires.
Avec des contrats en milliards d'euros. Oh, donc, mais oui. C'est pas une gamine.
Ah non, c'est non.
Amoureuse de son papa qui disait ça. C'est vraiment important.
Non, c'est pas de sa part, c'est pas l'enfant gâté qui veut un jouet. On n'est pas dans Charlie Chocolaterie. T'as dit, je veux un écureuil. Non, c'est un investissement vraiment personnel et c'est un choix pur de sa part d'abord parce que en tant qu'enfant gâté, si vraiment elle voulait, c'était une enfant gâtée, de sa part, elle aurait dit, eh ben écoute, moi je gagne plutôt très bien ma vie, pourquoi je vais rejoindre mon papa qui de toutes les manières me donnera jamais la même chose. Non, c'est un choix qu'elle veut et puis moi j'ai senti quand elle m'a dit dans son regard, mais mes enfants n'auront pas ça. Mais pour elle, c'était dramatique. C'était dramatique. Et regarde, quand tu lui en as parlé, elle est tout de suite sur la défensive dessus. Mais non. Tu m'enlèves une partie de ma vie, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça, pour elle, c'est hors de question. Elle savait déjà ce que c'était une ganache, un praliné, avant même d'entrer dans ce domaine. Elle a passé tellement de mercredis avec moi, elle a passé tellement de jours, puis elle en a goûté des choses. Elle a toujours été élevée dans cet univers, dans la restauration, dans tout ça.
Ouais.
Et c'est son univers.
Et en même temps, finalement, ce qui est magnifique, c'est que finalement, vous réalisez le rêve de tout artisan, c'est-à-dire de transmettre son entreprise, en plus, à sa descendance.
Mais c'est ça qui est incroyable. C'était... Au départ, il faut bien penser que je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour elle.
On est d'accord.
Ça c'est immuable. Mais le fait qu'elle me dise, eh ben oui, c'est génial. Oui, je veux bien effectivement re-signer quelques années. Je vais l'accompagner. Pour moi, c'était juste incroyable. Et je me souviendrai, quand ça a commencé à savoir, un des journalistes qui avait dit « Ça y est, Jacques Genin quitte la chocolaterie. » Mais je lui avais dit « Mais comment on peut dire de telles choses, écrire de telles choses ? Enfin, j'accompagne un enfant. Tu lui laisses pas un endroit comme celui-ci, rempli de bonheur, rempli d'étoiles, pour lui dire, ben, les étoiles, tu vas les éteindre les unes derrière les autres. Enfin, et puis, le fait qu'elle amène sa jeunesse sur tout ça, sa jeunesse, sa curiosité, ses envies et surtout ses racines, parce qu'elle a envie aussi d'imprimer, d'imprimer ses racines. Mais c'est fabuleux. Moi, j'étais arrivé à un âge de ma vie où ben, les idées, tu n'en as plus une à la minute quand même. Hein. C'est un peu plus long.
Vous avez un petit carnet à 10 idées?
Eh ben non, non, il est usé, il est fini, il est en dernière page, et à la fin...
Il écrit dans tous les sens.
Voilà. Il n'a plus de place. Et voilà, et puis elle va amener une autre image, et puis de son temps, ne serait-ce que par exemple les réseaux sociaux. Moi, Jacques Genin, les réseaux sociaux, eh ben on n'est pas fauché, hein, s'il y avait que moi, il n'y en aurait pas. Elle... Elle a pris ce Instagram. Et ça fonctionne, elle est dans son univers, et c'est fabuleux. Et son univers aujourd'hui, en plus, elle le partage avec mon second, Sophie.
Oui.
Elle s'amène des idées les unes les autres. Et c'est génial. Moi, j'en arrive maintenant dans le chocolat, puisque je suis beaucoup en pâtisserie. Je leur fais des ganaches, je leur fais des choses comme ça. Quand elles ne peuvent pas faire autrement. Et j'en arrive tous les matins, vous préparez un bonbon de chaque, je goûte. Je les appelle après. Attention, ça, moi je serais de vous, je le ferais comme ça. Et c'est de voir que la fois d'après, tiens, alors qu'est-ce que t'en penses? Il y a un véritable partage. Et puis, il y a une autre émulsion qui se fait. Et puis moi, ça m'a, eh bien, quelque part, ça m'a un peu aussi réveillé. Parce que voilà quand même, plus de 45 ans que je travaille. Et à un moment, tu peux me dire ce que tu veux. Tu fatigues aussi.
Est-ce que finalement, vous n'avez pas super réussi votre vie professionnelle dont la devise est se faire plaisir pour en transmettre?
Alors, je dirais oui. Oui, sur 90%. Et pour les 10% qui restent, je dirais oui, mais. Alors, qu'est-ce que veut dire oui, mais? Oui, mais, ça veut dire que sur ce parcours, qui a été quand même long, j'ai fait aussi des erreurs. Et ces erreurs, parfois, j'ai peut-être pas aussi toujours écouté des jeunes qui avaient l'âme de ce métier et que j'ai pas tout à fait compris. Et que j'ai compris bien après en leur demandant d'être moi.
Ah.
Et ça, c'est ça mes erreurs. C'est pour ça que je dis oui, mais.
Ouais, mais en même temps, l'intérêt de votre fille, c'est que c'est déjà à vous à 51% parfois ou 49% d'autres fois.
Ça peut l'être aussi.
Ainsi parle Jacques Genin, le fondeur, le chocolatier. Un gars hallucinant qui fait des bonbons de 5 grammes que je vous conseille de goûter parce que ce grand romantique dit à chaque fois « Le chocolat doit vous apaiser en douceur, avec une sensualité » et une grande sentimentalité. Pas de décor, l'émotion d'abord, ainsi parle Jacques Genin, 133 rue de Turenne à Paris.
Oui, pour moi, ce métier, c'est un acte d'amour. C'est un acte échangé aussi avec une autre personne. Et on n'a pas toujours besoin d'artifice pour aimer cette personne et la désirer. C'est la même chose. Et quand tu utilises des artifices, c'est que tu as besoin d'autres folies. C'est comme aller rechercher d'autres ganaches, d'autres pralinés ou d'autres saveurs.
Merci Jacques Genin.
Merci.